Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode de la Minute Nintendo. Alors aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Est-ce que les consoles portables nomades existent toujours ? Alors ça peut sembler être une question un petit peu stupide à première vue, mais quand on voit que dans le passé on avait des Game Boy, des DS qu'on trimballait un petit peu partout, et qu'aujourd'hui on a des Vita et ou des 3DS qui ont une autonomie très limitée, ça peut sembler être une question pertinente. Alors, effectivement, si on se penche un petit peu sur le passé et sur le démarrage des consoles portables, la première console portable qui a véritablement démarré et qui a véritablement percé auprès du grand public, c'est bien entendu la Game Boy, la console portable de Nintendo. Donc, avant cette Game Boy, il y avait certes un certain nombre de consoles portables comme les fameuses Game & Watch de Nintendo, mais c'est vraiment la Game Boy qui s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde et qui a vraiment popularisé les consoles portables auprès du grand public. Alors pourquoi ça a marché ? Tout simplement parce que c'était une console qui était très peu chère. Et Nintendo a d'ailleurs fait le choix de limiter technologiquement la Game Boy pour absolument garantir un prix qui soit très attractif auprès du public. Du point de vue de l'autonomie, vous pouviez jouer de nombreuses heures avec seulement les 4 piles que vous branchiez au dos de la Game Boy. Et ça, c'était un point extrêmement important, puisque forcément, qui dit console portable dit console que vous allez trimballer à droite à gauche, c'est-à-dire une console que vous allez utiliser loin des prises électriques. Et donc, il semblait nécessaire pour une console portable d'avoir une autonomie digne de ce nom, de façon à pouvoir jouer n'importe où sans avoir à se soucier d'une batterie ou de brancher une prise électrique. Donc ça, bien sûr, c'est ce qui a fait principalement défaut à l'une des principales concurrentes au Game Boy, à savoir la Game Gear, donc la console portable de Sega, donc qui était quand même plus avancée que la Game Boy par la qualité de ses jeux, par sa puissance et par ses graphismes en couleur. Mais cette console a connu un certain flop, on va dire, puisque du point de vue du prix, elle était beaucoup plus chère que la Game Boy. Et surtout, du point de vue de l'autonomie, eh bien, on ne pouvait pas jouer plus de quelques heures avant d'avoir besoin de changer les piles. Et donc, finalement, le plus souvent, quand on jouait avec la Game Gear, on jouait avec l'adaptateur secteur, c'est-à-dire qu'on jouait chez soi avec la console branchée sur une prise de courant, c'est-à-dire une console qui est tout sauf nomade. Et enfin, donc, si on revient à la Game Boy, bien sûr, ça a été une des premières consoles à proposer une prise en main vraiment exemplaire avec la traditionnelle croix directionnelle qui s'est vraiment imposée et les deux boutons, donc bouton A, bouton B, très simple, très, très facile à appréhender pour le grand public. Donc si on avance un petit peu dans le temps, donc bien sûr, il y a eu les diverses déclinaisons de la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, etc., donc qui ne changeait pas beaucoup le principe. Puis on a eu l'arrivée de la DS. Alors la DS, finalement, ça revenait un petit peu au fondement des consoles portables, puisque ça ressemblait quand même beaucoup à certains modèles de Game & Watch que Nintendo avait sortis donc avant la Game Boy. Donc certains modèles de Game & Watch avaient la particularité de proposer deux écrans qui pouvaient se refermer l'un sur l'autre de façon à proposer une console très compacte qu'on pouvait mettre dans sa poche sans avoir peur de l'abîmer. Donc la DS a repris ce concept, donc en proposant les deux écrans qui peuvent se replier de façon à être totalement protégés et à pouvoir être transportés soit dans un sac, soit dans une poche, vraiment une console très très solide. Et surtout, la DS a apporté un certain nombre de jeux qui étaient très adaptés aux séances de jeux courtes. Donc on pense par exemple au professeur Kawashima et tous les jeux d'entraînement cérébraux que la console a connus. Donc c'est typiquement le genre de jeu qu'il est très facile de jouer dans les transports en commun, entre deux stations de métro ou autre. Et d'ailleurs, donc, si vous regardez un petit peu autour de vous, ces dernières années, on a vu quand même vraiment de nombreuses personnes jouer avec leur DS dans les transports en commun, que ce soit dans le bus, dans le métro, etc. On avait vraiment vu des joueurs, des DS fleurir un petit peu partout dans les transports en commun. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle génération de consoles portables que sont la 3DS et la PlayStation Vita, mais il semble que ce côté nomade des consoles soit un petit peu remis en question. Si on regarde là un peu la 3DS, eh bien, on ne peut que constater que l'autonomie de la console est bien plus faible que celui de la DS. Puisque vous allez pouvoir jouer entre 3, 4, voire 5 heures sans avoir besoin de recharger la console en fonction de la luminosité que vous choisissez ou de si vous activez la 3D ou non. Donc ce qui est quand même assez faible comparé à la DS qui avait une autonomie qui pouvait dépasser les 8 heures de jeu. De plus, de par les fonctionnalités de la console, donc à savoir la 3D relief et la détection de mouvement avec le gyroscope, c'est des technologies qui sont quand même assez peu adaptées aux jeux en mobilité, puisque vous le savez, pour pouvoir apprécier la 3D sans relief, il faut être bien en face de son écran et ne pas bouger. Idem pour le gyroscope, il faut pouvoir bouger sa console sans être gêné par son extérieur ou son environnement. Donc tout ceci, ça, c'est quand même des choses qui sont difficilement adaptées à un jeu dans le métro ou dans le bus par exemple. Ça semble vraiment très peu adapté. Si on regarde du côté de la PlayStation Vita, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Au niveau de l'autonomie, elle est également assez faible. Hein. Encore une fois, ça va dépendre si vous activez le GPS, le Wi-Fi, etc. Quelle est la luminosité de l'écran que vous allez choisir. Mais globalement, c'est une autonomie qui reste tout de même assez faible. En plus, du point de vue du format, la PlayStation Vita a l'avantage d'avoir un très grand écran, mais a également l'inconvénient du coup d'être assez encombrante. Et par exemple, vous aurez peut-être un petit peu de mal à la faire rentrer dans votre poche si vous souhaitez sortir avec votre PlayStation Vita. De plus, par son format, elle reste quand même assez fragile, puisque vous avez deux sticks analogiques qui débordent de la console, et l'écran de la console qui est assez fragile, dans le sens où si vous la mettez dans votre sac sans utiliser une pochette, vous avez de fortes chances de rayer l'écran. Donc c'est quand même une console portable qui est difficilement transportable, qui en tout cas n'est pas aussi facilement transportable qu'une DS, qu'une 3DS ou qu'une Game Boy en son temps. Du plus, si on regarde un petit peu les jeux de la PlayStation Vita, ils sont quand même de qualité, mais ils ressemblent quand même beaucoup aux jeux des consoles de salon. Hein, si on regarde Uncharted, Wipeout, etc., c'est des jeux qui sont plus adaptés aux consoles de salon et qui ne sont donc pas forcément adaptés à une utilisation quotidienne rapide de quelques minutes lorsque vous avez un petit temps à tuer dans les transports en commun ou lorsque vous attendez dans une salle d'attente chez le médecin par exemple. Alors, donc on voit que sur les consoles actuelles de la génération actuelle, forcément les consoles se doivent d'être puissantes pour proposer des jeux au graphisme toujours plus beau, avec de la 3D toujours plus soignée, etc. Et donc les consoles ont besoin d'être puissantes. Et qui dit besoin de puissance dit des consoles qui sont gourmandes en ressources et donc en énergie. Et à côté de ça, les batteries ne progressent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avancées technologiques en ce qui concerne les batteries. Et donc les batteries restent limitées et ont des capacités qui n'augmentent pas beaucoup avec le temps. Et par conséquent, les autonomies des consoles tendent à diminuer. Donc les batteries ne diminuent pas, mais les consoles sont de plus en plus gourmandes, et donc l'autonomie baisse en conséquence. Donc finalement, on peut être assez pessimiste sur le côté nomade des consoles et des futures consoles portables qui sortiront. Et la solution à ce problème, d'où peut-elle venir ? Eh bien, c'est tout simplement chercher des systèmes qui nous motivent à recharger quotidiennement sa console. Puisque les batteries ne progressent pas, si vous voulez avoir votre console à tout moment avec vous et pouvoir y jouer à n'importe quel instant, il faut que à tout moment, chaque jour, chaque soir, vous rechargiez votre console. Donc Nintendo a assez bien compris ça, et à proposer un dock pour la 3DS qui vous pousse à recharger votre console tous les soirs. Simplement, vous posez votre console sur votre dock, elle va se recharger pendant la nuit, éventuellement télécharger des choses par SpotPass, télécharger vos courriers de la boîte aux lettres, télécharger les démos de l'eShop si vous lui avez dit de les télécharger, etc. Et le matin, quand vous allez partir, vous reprenez simplement votre console et elle aura été rechargée. Vous allez donc pouvoir profiter de vos jeux, profiter du Street Pass, etc. Donc, un autre point qui peut vous pousser à garder votre console toujours sur vous et donc à la recharger pour que vous puissiez l'utiliser, c'est tout ce qui est la connectivité. Puisque ben, c'est quand même une des avancées des consoles de la génération actuelle, que ce soit la 3DS ou la PlayStation Vita, c'est que ce sont des consoles qui sont très connectées, qui vont vous permettre d'échanger très facilement des informations avec les autres joueurs. Donc si on regarde du côté de la PlayStation Vita, eh bien sûr, le point principal, c'est la 3G. Donc je vous rappelle que la PlayStation Vita propose deux modèles, un 3G et un modèle Wi-Fi seulement. Et donc le modèle 3G permet, si vous souscrivez à un abonnement d'environ 30€ par mois, de rester connecté en permanence sur la 3G, donc comme sur un smartphone, un iPhone ou un téléphone Android par exemple. Donc malheureusement pour la Vita, bah, la 3G c'est quand même une option payante et quand même assez chère puisqu'il faut payer minimum 30€ par mois. Et en plus, ce n'est qu'une option sur la console, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver la console avec ou sans 3G. Et donc d'ailleurs la plupart du temps les joueurs achètent le modèle sans 3G puisqu'il est moins cher, il coûte 250€ au lieu de 300€. Et donc le modèle 3G a vraiment du mal à s'écouler. Et donc par conséquent la 3G risque de ne tout simplement pas être exploitée au sein de la console puisque personne n'achète le modèle 3G. Donc que ce soit au sein des jeux ou au sein du système d'exploitation de la console, il y a fort à parier que la 3G ne sera jamais vraiment exploitée à sa pleine capacité puisque finalement ça n'intéresse personne et que personne n'achète le modèle compatible 3G. Donc ça partait d'une bonne idée puisque comme un iPhone, une console Vita qui soit connectée en permanence en 3D, ça vous permettrait en théorie de pouvoir télécharger des jeux où que vous soyez, de pouvoir accéder à votre liste d'amis, d'envoyer des messages, d'aller sur internet, voire de jouer en ligne. Donc ça partait d'une bonne idée, mais malheureusement le fait que ce soit simplement une option rend le tout complètement inexploitable. Et puis de plus, la couverture 3G n'est pas encore optimale, les débits ne sont pas encore vraiment suffisants pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions en ligne en utilisant les réseaux 3G. Donc Nintendo avec la 3DS a opté pour une démarche un petit peu différente, et pour vous pousser à garder la console avec vous en permanence, a instauré au sein de la console plusieurs fonctionnalités. Donc tout d'abord, au niveau du multijoueur en local, si vous croisez d'autres personnes qui ont une console 3DS, vous allez avoir la possibilité, un petit peu comme sur la DS, de jouer en multi même si vous n'avez pas le jeu. Puisque de nombreux jeux, comme Mario Kart 7 par exemple, proposent un mode multijoueur en téléchargement. Donc il suffit qu'il y ait un des joueurs qui possède une cartouche pour que vous puissiez jouer tous ensemble en multijoueur. Donc ça c'est quand même pas mal et ça pousse vraiment à garder sa console lorsque vous allez chez des amis qui ont eux-mêmes une 3DS par exemple. Et puis surtout la nouveauté principale c'est le podomètre et le street pass. Donc bien sûr à chaque fois que vous faites des pas avec votre 3DS, que vous la gardez, que vous marchez avec, vous allez donc les pas vont être comptabilisés au sein du podomètre de la console et vous allez gagner des pièces que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour acheter tout un tas de mini-jeux ou de papier à lettres dans l'application boîte aux lettres de la 3DS, ou encore pouvoir acheter des Mi pour Mi en péril, acheter des pièces de puzzle dans Puzzle Quest, etc. Donc une utilisation assez intéressante des pièces qui vous pousse véritablement à garder votre 3DS avec vous à chaque fois que vous allez sortir, marcher, en promenade, etc. Donc de plus, l'autre point, une véritable révolution de la 3DS, c'est le fameux mode Street Pass. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez croiser une autre personne qui possède une 3DS et qui a activé donc, ce mode Street Pass, vous allez échanger automatiquement des données avec lui sans avoir besoin d'ouvrir la console, il suffit que la console soit en veille. Donc vous allez voir son Mi sur votre place Street Pass, vous allez pouvoir échanger automatiquement des pièces de puzzle, vous allez pouvoir jouer avec le Mi de la personne dans les modes de jeu mis en péril, et puis surtout les divers jeux que vous possédez et qui proposent un mode Street Pass, donc que ce soit Mario Kart 7, Mario 3D Land, etc., et bien vous allez pouvoir bénéficier de petits bonus, donc que ce soit la possibilité d'obtenir des petits cadeaux, etc., ou alors de la possibilité d'effectuer des combats automatiques dans Street Fighter 4 par exemple, ou la possibilité d'affronter le joueur dans Dead or Alive et de gagner des points et de monter dans les divers classements. Voilà, donc plein de petites fonctionnalités qui se font automatiquement, donc des échanges de données automatiques entre les consoles que vous allez croiser, peu importe que vous ayez le jeu à l'intérieur de la console ou non. Ça, c'est vraiment une des grosses forces de la 3DS. C'est vraiment très sympa lorsque vous croisez une personne de voir cette petite lumière verte qui apparaît et qui vous prévient que vous avez croisé une personne et que donc vous allez avoir des petits bonus. Et c'est vraiment une des grosses innovations de la 3DS qui est vraiment très appréciée des joueurs. Donc c'est vraiment de là, de la connectivité, que va venir, je pense, le salut des consoles portables. Et c'est ce qui va vraiment pousser, ce qui va vous pousser à garder les consoles portables dans votre sac et à ne pas simplement garder avec vous votre smartphone, votre iPhone, etc. C'est vraiment très important que vous, que Nintendo trouve des petites astuces, des petites motivations pour vous pousser à sortir avec vos consoles de façon à ce qu'elles restent des consoles nomades et pas qu'elles deviennent des consoles de salon avec leur propre écran en gros. Donc si on regarde un petit peu dans le futur, qu'est-ce qu'on peut voir ? Et ben, tout simplement la généralisation de la communication, donc, que ce soit avec le réseau 3G ou le réseau 4G, donc, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année en France, donc le début en tout cas. Et donc si toutes les consoles deviennent connectées, ben, bien sûr ça permettra plus facilement d'acheter des mini-jeux en ligne, sans avoir besoin de repasser chez soi, de connecter sa console en Wi-Fi, etc. Ça permettra, lorsque les débits seront suffisants, de jouer en ligne où que vous soyez avec votre console. Ça, c'est plutôt pas mal. Du point de vue du Street Pass, c'est quand même une grosse innovation, mais on espère qu'il va s'améliorer, notamment qu'il permettra des échanges un peu plus interactifs entre les consoles. Donc pour cela, on attend vraiment beaucoup le prochain Pokémon de la 3DS, qui, lorsqu'il sortira, devrait proposer un mode Street Pass. Et on peut bien sûr imaginer des fonctionnalités très intéressantes avec un Pokémon qui proposerait un mode Street Pass, donc que ce soit la possibilité d'échanger des objets ou d'échanger automatiquement des Pokémon. Donc par exemple, on peut dire, imaginez que si vous avez décidé que vous croisiez quelqu'un qui proposait, un Pikachu et que vous-même vous cherchez un Pikachu, et que de la même façon vous avez un Pokémon qui intéresse la personne que vous croisez, l'échange va pouvoir se faire automatiquement, un petit peu comme sur la GTS. Donc ça serait plutôt une bonne idée, ça serait assez sympa de proposer ces petits échanges automatiques lorsque vous croisez une personne. Et enfin, la prochaine évolution qu'on peut espérer dans le futur, c'est le développement des puces NFC. Donc on sait que les puces NFC arrivent petit à petit dans les smartphones, donc quelques smartphones en tout cas, et on sait en plus que la mablette de la Wii U, donc la manette de la Wii U qui possédera un écran, possédera une puce NFC qui permettra donc les puces NFC, on en avait fait une minute Nintendo là-dessus, ça permet d'effectuer de la communication sans contact. Donc si vous avez deux consoles qui possèdent un mode une puce NFC, vous allez pouvoir, par exemple, très facilement échanger des photos prises en 3D entre les deux consoles. Vous allez pouvoir échanger vos scores, vous allez pouvoir échanger vos codes amis. Tout ça simplement en passant les deux consoles à proximité l'une de l'autre. Donc c'est de la communication sans contact et c'est vraiment l'avenir de la communication avec les appareils mobiles, puisque ça permet d'effectuer des échanges qui soient sécurisés et qui permettent d'échanger tout un tas de données diverses et variées, que ce soit effectuer des paiements, échanger des informations, etc. Donc ça permet d'entrevoir des possibilités encore plus importantes d'échanges entre les consoles portables. Et ça devrait encore une fois vous pousser à garder vos consoles avec vous et à ce que les consoles portables restent avant tout des consoles nomades qu'on peut utiliser n'importe où et pas simplement chez soi, dans son salon ou dans son lit. Voilà donc à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les consoles portables et leur côté nomade ou non. Donc on a vu que le côté nomade des consoles portables a été un petit peu remis en question ces derniers temps suite à la baisse de l'autonomie, mais que finalement les constructeurs avaient tout de même l'imagination nécessaire suffisante pour nous pousser à garder ces consoles avec nous et à ne pas simplement se contenter de garder son iPhone dans sa poche ou son smartphone. Voilà, donc j'espère que cette minute Nintendo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écouter les anciens épisodes, donc vous pourrez les retrouver sur kodami.fr ou en téléchargement sur iTunes. N'hésitez pas, si vous avez iTunes, à vous abonner au podcast, donc vous recevrez tous les nouveaux épisodes automatiquement directement sur votre iPod, iPad ou iPhone. N'hésitez pas également à nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou à nous laisser quelques étoiles. Ça nous permet de remonter un petit peu dans les classements et ça nous permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode de la Minute Nintendo.